Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Police Sexiste, le podcast qui analyse les violences policières au prisme du féminisme et des questions de genre. Je m'appelle Scandola Graziani, je suis étudiante en journalisme et je suis moi-même militante féministe. Ce podcast est né de la rencontre entre mes deux sujets de prédilection, le féminisme et les violences policières. Pour introduire ce premier épisode que j'ai appelé « Les émeutières », je vous propose d'écouter le chant des militantes dans les dernières manifestations de 2020 contre la loi Sécurité Globale.
Un jour tout ensemble, ces femmes se lèvent. Un jour tout ensemble, ces femmes se lèvent.
À plusieurs milliers se mettent en grève.
À plusieurs milliers se mettent en grève. Écoutez, brûle leurs sabots. Voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, brûle leurs sabots. Voilà qu'arrivent les pleines sardines.
Ce chant m'a beaucoup émue, et d'ailleurs lorsque les femmes chantent dans les cortèges, c'est plutôt bon signe. Mais vous vous en doutez, ça ne se passe pas toujours comme ça. Il arrive que certaines manifestantes soient gravement blessées, comme Geneviève Leguet à Nice en mars 2019, ou comme Farida, l'infirmière violemment brutalisée dans une manifestation à Paris en juin 2020. Il arrive aussi que certaines d'entre elles soient insultées, menacées de viol, voire même agressées sexuellement. L'été dernier, les révélations de Mediapart et d'Arte Radio à propos d'un groupe WhatsApp de policiers qui échangeaient des remarques racistes, sexistes et homophobes montrent à quel point la police reste un bastion du racisme, du virilisme et de la masculinité dominante. Ce constat se traduit aussi au cœur des mouvements sociaux, au niveau des relations entre les militantes et les forces de l'ordre. Étant moi-même militante, j'ai souvent entendu d'autres manifestantes raconter les menaces de viol, ou les attouchements sexuels de la part de policiers et policières, lors des fouilles par exemple. Certaines disent aussi avoir été tirées par les cheveux de manière très brutale, ou encore avoir reçu des insultes à caractère sexiste ou homophobe, qu'il ne sera pas utile de rapporter ici. L'une d'entre elles m'a notamment raconté comment elle avait été menacée par des policiers en 2016, lors d'une manifestation contre la loi travail. Après avoir relevé son identité, un des CRS lui avait lancé « Attention, ferme bien ta porte quand tu rentres chez toi, on sait où tu habites maintenant. » Ces menaces peuvent avoir de graves impacts psychologiques. Pendant longtemps, mon amie, par exemple, n'a pas été capable de retourner en manifestation et faisait des crises d'angoisse à répétition. Ceci m'amène à me poser cette question. Les violences policières infligées aux femmes ne sont-elles pas révélatrices d'un sexisme systémique qui vise à soumettre et à s'approprier le corps de toutes les personnes n'étant pas des maxis hétérosexuels ? Les agissements sexistes des policiers ne sont-ils pas significatifs de la banalisation de la violence exercée contre les femmes dans la société en général ? Mais peut-être aussi que le sexisme fait tout simplement partie de l'ADN de la police. Dans cet épisode consacré aux militantes victimes de violences policières, nous essayerons d'apporter un premier éclairage sur ces questions. Je ne suis ni la seule ni la première à m'être intéressée à ce sujet. Gilets jaunes et manifestantes de longue date, Zazaz écrit depuis plusieurs mois des articles sur ces problématiques sur son blog Mediapart. Elle travaille actuellement à un livre qui compile tout son travail. J'ai eu la chance de la rencontrer lors d'une manifestation contre la loi Sécurité Globale à Rennes le samedi 28 novembre 2020. Le premier témoignage de cet épisode est le sien. Le bruit que vous entendrez à la fin est celui des grenades de désencerclement qui nous ont forcés à abréger l'interview.
Donc je m'appelle Elisa, mon pseudo c'est Zazaz. J'ai recommencé à me battre et à lutter en 2016 avec la loi travail. Donc puis Macron est arrivé. Macron est arrivé et donc on a continué. Il y a eu les gilets jaunes. Donc moi j'ai commencé à écrire des billets sur Mediapart en janvier 2019. En mars 2019, il y a Geneviève Leguet qui s'est fait agresser à Nice. Et là, ça a vraiment déclenché chez moi une grande colère. Donc le lendemain matin, j'ai appelé une boîte pour faire une banderole. Macron, t'es foutu, toutes les vieilles sont dans la rue.
J'ai demandé à Zazaz si elle pensait que les femmes étaient devenues plus vulnérables face aux violences policières.
En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que à partir d'un moment, elles sont même devenues des cibles en manif. Parce que comme elles se sont mises vraiment à avoir des grandes gueules et vraiment à être en tête de cortège et tout ça, et ben elles ont vraiment été les nouvelles cibles et elles s'en sont pris plein la gueule, quoi. Plein la gueule. C'est inadmissible, c'est... voilà. Et donc, avec cette accumulation, j'ai créé un groupe de soutien aux femmes victimes de violences policières. Parce que ça suffit, quoi. Parce qu'ils vont arrêter de tuer nos copines, nos mômes, nos mères.
Est-ce que tu peux par exemple expliquer quelles séquelles ça peut avoir les violences policières sur les femmes ?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la violence psychologique, bien sûr, qui rappelle toute la domination subie tout au long de la vie. Parce que c'est pas seulement face à un mari ou un compagnon, tout ça, c'est tout au long de la vie, c'est dès la naissance. C'est dès la naissance qu'elles subissent la domination, quand elles se font taper comme ça, mais vraiment, les mecs, ils sont comme des sauvages. On a l'impression vraiment qu'ils sont en train... qu'ils défoulent toute leur haine sur les femmes, et c'est insupportable, quoi. C'est insupportable, et c'est pas... Parce qu'on est, je râle pas parce qu'on est de faibles choses qui ne supportent pas ça. C'est qu'on, les femmes sont vraiment devenues des cibles.
Tu veux allumer ta cigarette ?
Ouais.
Après la pause cigarette, j'ai demandé à Zazaz de me parler des séquelles physiques et des conséquences des violences policières sur le corps des femmes.
Il y a des vraies séquelles physiques, hormonales principalement. Où il y a vraiment des dérèglements hormonaux terribles. Moi, j'ai rencontré plein de femmes qui se disaient « Mais est-ce que je peux avoir un enfant ? Quelles vont être les conséquences sur mon enfant ?» C'est abominable, quoi. Mm-hmm. C'est abominable quand on... Non, et puis les poisons qu'il y a, je veux dire, ça fait 40 ans que je fais des manifs, sinon 50. Donc je connais les gaz lacrymogènes, je sais ce que c'est. Et ce qu'ils mettent dedans maintenant, ça n'a plus rien à voir. C'est des trucs qui t'étouffent, qui te paralysent, qui sont vraiment très très violents, quoi. Très très violents. Et qui laissent des séquelles respiratoires, psychologiques, physiques, qui mènent la peur et la rage en même temps.
Finalement, j'ai voulu savoir si ces violences ne décourageaient pas les femmes à aller manifester. J'ai posé la question à Zazaz.
Certaines, oui, parce que certaines ont peur, mais en même temps, ça les met tellement en colère que même si c'est pas dans la rue, qu'elles s'exprimeront dorénavant, elles auront une rage. On en a vu plein des vidéos de femmes qui étaient maltraitées. Il ne s'est pas passé ça. Il ne s'est pas passé ça. Quand Farida elle a été maltraitée, on n'était pas des dizaines de milliers dans la rue. C'est...
Après cette interview que nous n'avons pas pu finir, je suis un peu restée sur ma faim. Mais j'avais désormais la preuve que mon hypothèse tenait la route. Le caractère sexiste des violences policières n'était pas seulement le fruit de mon imagination. J'ai eu envie d'aller plus loin et de recueillir d'autres témoignages. J'ai posté un appel à témoignages sur les réseaux sociaux et c'est ainsi que j'ai rencontré Red. Red a 26 ans, elle fait des études de cinéma et elle est aussi Medic Street, c'est-à-dire qu'elle apporte une aide de première nécessité aux blessés dans les manifestations. Un jour, elle a fini en garde à vue. Une expérience traumatisante pour elle qu'elle raconte dans un film d'animation. Dans le témoignage puissant que vous allez entendre, elle revient sur son expérience avec la police. Elle décrit les regards lubriques, le sentiment de soumission et la peur de l'agression sexuelle.
Je suis militante depuis un moment, enfin au moins depuis 2017, mais la plupart des violences que j'ai vécues, elles sont... Enfin, c'est un peu éparpillé, mais... De celles dont je me souviens bien, c'était pendant surtout les gilets jaunes. Pour moi, les violences policières en particulier, elles se sont vraiment intensifiées ces deux dernières années, mais c'est surtout que moi, je trouve que les violences policières avec les femmes, c'est particulier parce qu'on est souvent sujette à se faire tirer les cheveux, avoir des remarques sexistes vraiment très prononcées sur notre corps. On a souvent des menaces de viol, des menaces de, bah, tu sais, hein, genre, il n'y a personne qui regarde, nous, on peut faire ce qu'on veut, on a des armes, on peut toucher quand on veut, quoi. Et souvent, ce que je remarque souvent dans les commentaires de femmes ou, en tout cas, de personnes qui ne sont pas mexis quand elles sont arrêtées, c'est que souvent, y a des menaces de viol. On se fait tirer les cheveux sur plusieurs mètres, alors qu'en fait, il n'y a aucun besoin. Hein. Souvent, même quand on est maîtrisé, il y a le fait de se faire tirer les cheveux en plus. Et vraiment, ça sent à chaque fois qu'il y a un besoin de domination de la part du keuf, de montrer qu'à quel point il est viril et qu'on n'est que des petits êtres fragiles et sexuels entre ses mains. Et souvent aussi, il y a le rapport au corps et du coup, de nous rappeler qu'on n'est que des femmes, que des objets sexuels et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent de nous. Et du coup, moi, je l'ai particulièrement senti quand je me suis fait arrêter en décembre 2018, quand les gendarmes m'ont emmené dans le camion et que du coup, une fois que j'étais menottée, j'étais quand même face à 10 ou 12 hommes armurés avec des matraques et tout. Et quand j'étais menottée dans le camion, ils sont tous venus défiler en rigolant, en faisant des signes un peu de, je sais pas, de dégueulasse en tout cas, et en braquant une caméra sur moi et en me regardant comme si c'était, ils faisaient une séance de porno. Et bah, j'ai rien montré bien sûr parce que je voulais pas qu'ils sachent à quel point j'étais mal à l'aise. Mais au fond, en fait, j'étais en train de trembler et je me disais, mais en fait, j'ai aucun échappatoire, je ne sais pas ce qui peut m'arriver. En plus, je suis restée plusieurs heures dans le camion, donc en fait, j'avais aucun moyen de m'échapper, j'avais aucun moyen de savoir si on avait finalement violé, parce que là, c'était possible, en fait. Personne ne me regardait, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait personne pour m'aider, en fait. Il y a une autre fois où j'étais en fait, c'était le même jour, j'étais en cellule. Et je me suis réveillée parce que j'entendais des bruits bizarres. Et en fait, je me relève et je vois qu'en fait, ils étaient en train de me regarder, bras croisés, toute une série de keufs en train de me regarder avec un regard vraiment lubrique, du genre, tu sais, bon, il y a des barreaux, hein, mais tu sais pas ce qui peut arriver. On peut faire ce qu'on veut, hein, on peut peut-être ouvrir les barreaux et c'est fini, hein, genre... Genre, de toute façon, il n'y a pas de caméra, personne ne regarde, et puis les caméras, on fait ce qu'on veut. Donc, c'était vraiment un regard, genre, on peut faire ce qu'on veut de toi, en fait. Et du coup, j'ai eu mais la trouille ce jour-là de... En fait, j'arrivais plus à dormir, parce que je me disais, en fait, que si je m'endormais, ça se trouve, ils allaient venir dans ma cellule, et puis c'était fini, quoi. Avec les potes mecs, par exemple, c'était pas du tout la même chose, c'était... Plus du style, ils jouaient les coqs en mode pour un petit peu tester leur virilité. Par contre, quand c'était des meufs, tout de suite, ils regardaient la poitrine, ils regardaient les formes. Il y avait limite, genre des petites légères touches sur les fesses, quoi. Enfin.
En plus de ces regards lubriques, Red a aussi subi des fouilles et des palpations non consenties pendant lesquelles elle s'est sentie très mal à l'aise. C'est ce qu'elle raconte dans l'extrait qui suit.
Ça, c'était arrivé, mais dans mes premières années de militantisme, quand on occupait les facs, c'était une fac qu'on... Voilà, il y a eu une grosse expulsion, parce qu'en plus, il y avait plein de migrants avec nous. Mais surtout, en fait, il y a un moment où il y a un mec qui s'est fait choper violemment, donc du coup, j'ai essayé de l'empêcher de se faire frapper. Bon, du coup, ils m'ont attrapé hyper violemment avec les autres. Et j'ai été entraînée par 4 CRS qui me balançaient comme un saucisson en bas dans une... En fait, ce qui faisait peur, c'était une pièce qui était vraiment au sous-sol. Il n'y avait personne, il n'y avait que des CRS et genre que quelques nanas et avec des barreaux. Donc en fait, ça faisait vraiment glauque, prison. Évidemment, aucune caméra parce qu'ils nous privaient de nos téléphones. On ne pouvait pas filmer, on ne pouvait pas témoigner. Et en fait, c'était très gênant parce qu'il y avait vraiment que des CRS partout. En fait, il y avait une ambiance virilo, vraiment de façon intense. Et du coup, moi, j'étais pareil dans un coin toute seule, alors qu'on avait aussi d'autres nanas, mais dans leur coin toute seule. Et du coup, il faisait exprès de passer devant nous avec cagoulé de façon menaçante. Et y a un moment, il arrive vers moi et il roule des muscles et il fait « Bon, allez, on va passer à la fouille. » Et il se tient vraiment devant moi, en fait, genre à presque 2 cm de moi. Et il commence à se pencher sur moi. Et d'un coup, j'entends les nanas crier « Non, 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 surtout pas, c'est des femmes qui doivent nous fouiller, on veut pas des hommes et tout. » Et le mec, il en a rien à foutre, il rigole, il fait un rire gras en mode « Ah, j'en ai rien à foutre », et il commence à vouloir m'attraper. Et là, du coup, je lui dis « Non, non, en fait, c'est une femme qui doit nous fouiller. » Et en fait, j'ai dû hurler vraiment beaucoup pour qu'il dise « Non, stop, en fait, vous m'amenez une femme, il n'y a pas moyen, vous ne me touchez pas. » Et le mec, en fait, il a été super déçu. Il a reculé, il a fait « Bon, j'appelle... J'appelle une féminine. » Et il a reculé. Mais vraiment, il avait un regard genre déçu. Et après, il a ricané d'un rire grand en mode « C'est pas grave, peut-être un jour, j'aurai ma revanche, quoi. » Et du coup, il y a effectivement une nana qui s'est ramenée. Et en fait, même elle était désolée de nous fouiller parce qu'elle-même, il y avait une telle ambiance viriliste avec tous les mecs qui la regardait nous fouiller, que du coup, elle était presque désolée pour nous, tellement elle-même, elle se sentait mal à l'aise. C'est dire. Parce qu'évidemment, il y avait 10, 20 CRS cagoulés qui nous regardaient nous faire fouiller. Hein, donc, avec ce petit regard lubrique en mode « Ah, dommage, c'est pas nous qui fouillons, mais... » Ça, c'était pas que cette fois-là. Il y a eu plusieurs fois où, quand on se faisait fouiller, et que les keufs, ils venaient regarder comment on se faisait fouiller. Mais c'était pas pour vérifier si on se faisait bien fouiller, hein, c'était juste pour mater le spectacle, en fait. Mais en plus, le truc, c'est qu'il y a pas que... Enfin, il y a aussi une fois avec une nana de la Brave, ouais, en fait. En fait, c'était un contrôle, et ça s'est transformé en ce que les meufs, en tout cas, on se fasse toucher, mais genre... Genre, elle s'en est pris à nos poitrines, en fait. Genre, elle les a malaxées. Hein. Alors, je lui ai dit, excusez-moi, mais là, on n'est pas... Je suis pas ta copine, je suis pas ta petite amie. Donc, en fait, on m'a arrêté tout de suite. Et genre, en fait, elle me menaçait de faire encore pire si je résistais, en fait.
La violence subie et décrite par Red est différente de la violence purement physique. Il s'agit aussi d'une humiliation, d'une violence psychologique qui a laissé des traces. Red a eu des séquelles et elle s'est mise à avoir peur. Pas seulement la peur d'être frappée, mais aussi la peur d'être agressée, violée, soumise, réduite à n'être qu'un jouet entre des mains destructrices. Un sentiment d'insécurité qui n'est pas toujours correctement appréhendé dans les milieux militants.
J'ai l'impression qu'il y a vraiment le mythe de « t'es une femme, t'inquiète, ça va aller, ils vont être plus doux avec toi ». Mais non, en fait, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on n'est pas frappé ou tabassé, par exemple, que c'est pas une violence, parce que Ça reste un traumatisme après longtemps, hein, quand on est vu... Moi, ça m'est resté longtemps, le fait d'avoir été... de me dire, pendant 4 heures, il y avait n'importe qui pouvait me violer ou m'agresser sexuellement, me palper, me faire tout ce qu'il voulait, sans qu'il y ait personne qui témoigne pour moi, qui m'aide. Genre, j'étais vraiment en état de pas me défendre. Et ça, c'est terrible, d'avoir ce regard... vraiment porno sur soi, c'était genre qui est pas du tout consenti. Donc là, c'est très violent à vivre. Et je pense que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui le taisent et qui n'osent pas raconter ce genre de choses de peur d'être moquées, en fait. Bah, du coup, aujourd'hui, malheureusement, il y a des personnes qui pensent que j'ai des signes de stress post-traumatique, comme hélas beaucoup de gens, parce que j'ai quand même vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. Et je fais souvent des cauchemars, je me réveille la nuit, ou alors je tourne des conversations en boucle sans le faire exprès. Mais en fait, par exemple, moi, après la garde à vue de décembre, je crois que pendant plusieurs mois, j'ai quand même rêvé... en fait, je me réveillais parce que j'avais l'impression qu'il y a quelqu'un qui me regardait dormir, en fait. Ou alors j'avais beaucoup de mal, même si les gens ne le voyaient pas, à rester dans une pièce seule avec que des mecs. Parce que du coup, il y a cet instinct qui revenait en mode... Alors qu'en fait, j'étais avec des personnes sûres, hein, par exemple. Hein, mais c'est juste que, voilà, je... j'osais pas le dire, mais j'étais pas bien du tout. Ou alors, aujourd'hui, par exemple, comme beaucoup de gens qui, malheureusement, ont des traumatismes dus à la police, disons que quand je les croise dans la rue, j'essaye de changer de trottoir ou de les éviter. J'ai peur, en fait, à chaque fois, d'avoir un contrôle et que ça dérive dans le fait que je me fasse toucher ou que ça aille trop loin. En fait, j'ai moins peur de me faire frapper, même si j'ai pas du tout envie, mais j'ai moins peur de me faire frapper que de me faire, me retrouver à nouveau dans cette situation où je serais pas en état de défense et que je pourrais me faire agresser sexuellement. Ou à nouveau d'avoir ce regard lubrique posé sur moi. Quand on a ce regard-là, on n'est pas des militantes, on n'est pas des personnes, on est juste des objets qu'on peut violer quand on veut, quoi.
On n'est pas des militantes, on est juste des objets qu'on peut violer quand on veut. Une phrase puissante qui décrit la réalité vécue par certaines militantes comme raide. À travers ce témoignage, c'est aussi de l'image de la manifestante dont il est question. Qu'est-ce qui effraie tant les policiers dans la figure de la femme révolutionnaire ? Les émeutières représentent-elles une menace particulière pour les forces de l'ordre ? Pour répondre à ces questions, j'ai interviewé l'historienne du XIXe siècle Mathilde Larère, spécialiste des luttes militantes féministes depuis la Révolution française.
Alors la militante, de toute façon, pour les forces de l'ordre, longtemps pour la justice, pour une partie des commentateurs médiatiques, etc., elle transgresse deux ordres. Alors elle transgresse l'ordre politique, parce qu'elle est militante, et ça, à partir du moment où, alors si en plus elle est considérée comme ayant commis des violences, elle les transgresse l'ordre juridique, puisqu'elle n'a pas le droit de commettre des violences, mais surtout elle transgresse l'ordre des sexes. Parce que dans les représentations générales de ce qui doit être la place de la femme n'est pas censée intervenir dans l'espace public. La femme n'est pas censée intervenir en politique. Alors, on dirait maintenant ça a changé. On a le droit de vote, on a le droit d'éligibilité, mais on est quand même le résultat de siècles et de siècles et de siècles de ce qu'on a longtemps appelé la théorie des sphères séparées et qui fait que la place des femmes n'est pas dans la scène politique. Donc cette présence des femmes dans la scène politique, elle est d'autant plus scrutée, d'autant moins mal acceptée que finalement elle est assez neuve au bout du compte. Et donc la femme qui milite, elle joue déjà cette double transgression. Et par-dessus marché, on n'envisage pas qu'une femme puisse avoir recours à la violence. Donc une militante ou une manifestante qui aurait lancé un pavé ou qui aurait poussé des forces de l'ordre, enfin aurait fait ce que fait un militant, peut faire un militant, donc finalement on réagit à égalité avec les hommes parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle soit plus ou moins violente qu'un homme, on ne l'accepte pas parce que dans les imaginaires, la femme ne peut pas être violente. Et donc la femme violente est considérée comme monstrueuse dans les imaginaires. Et monstrueuse pas seulement parce qu'elle est violente, mais aussi parce qu'elle est femme et qu'elle n'a pas à l'être. Elles sont plus victimes parce qu'elles sont... d'abord parce que contrairement à ce que les imaginaires à nouveau fabriquent, elles sont en première ligne au même titre que les hommes, voilà. Et qu'elles sont sans doute plus facilement arrêtées. Parce que il faudrait plutôt demander à des forces de l'ordre, mais ils doivent partir du principe que c'est plus facile à arrêter une femme, donc ils l'arrêtent. Parce que aussi ils ne considèrent pas que c'est pas sa place, donc ils l'arrêtent. Et ce qui explique que elle se retrouve peut-être plus que des hommes dans arrêtés dans les commissariats. Mais ça c'est quelque chose que on trouve avant hein dans les émeutes du 19e siècle. Si jamais ils tombent sur une femme, ils l'arrêtent immédiatement, ils l'arrêtent violemment. Ou au moment de la commune, ils la fusillent, mais parce qu'il y a une espèce de refus de d'envisager la présence de cette femme qu'il va falloir donc punir immédiatement. Mais là où il y a eu des violences sexuelles sur des militantes, et c'est beaucoup plus documenté, c'est dans les ce qu'on appelle les révolutions arabes, les Égyptiennes, les Tunisiennes ont été massivement violées dans les dans les commissariats. Et ce viol comme un viol de guerre est un viol pour humilier à la fois la femme et pour humilier l'homme, pour humilier l'ensemble du mouvement. Et c'est utilisé, c'est pratiquement comme le viol de guerre dans ces cas-là.
Pour Mathilde Larère, les violences sexistes et sexuelles infligées par la police s'expliquent par plusieurs raisons. Dans l'extrait qui suit, elle parle d'un véritable processus d'humiliation.
Il n'y a de toute façon pas de formation antisexiste dans la formation des futurs policiers. Et il apparaît de façon évidente que la formation est très importante pour éviter ce type de comportement. Que par ailleurs, l'exercice du métier de policier, alors ça va être de l'arrestation à la garde à vue, elle intègre toute une dimension d'humiliation, c'est-à-dire que la garde à vue est pas du tout un moment où simplement on isole les gens et on les traiterait de façon normale, c'est un processus d'humiliation. Et ben le sexisme prend pleinement sa place dans ce dispositif d'humiliation. Donc moi je dirais que c'est une culture de l'humiliation, une absence totale de formation en la matière. Et par ailleurs, même s'il y a de plus en plus de femmes dans les forces de l'ordre, ce qui évidemment n'était pas le cas à l'époque sur laquelle je travaille, ça reste quand même des sociétés très masculines, de l'entre-soi, avec des valeurs virilistes. Et ça, c'est aussi un des éléments qui accompagne très fortement le sexisme et les violences sexistes et sexuelles, quoi.
Ce système de domination et d'humiliation, la journaliste photoreporter indépendante Anna Nelson en a fait l'expérience plusieurs fois. Lors d'une brutale arrestation à Paris en novembre 2020 dans une manifestation contre la loi Sécurité globale où, précisons-le, elle faisait son travail de journaliste, elle a fini pour la seconde fois en garde à vue. Comme Red, mais un peu différemment, elle décrit les humiliations sexistes et la difficulté à s'affirmer en tant que femme en garde à vue, un milieu essentiellement masculin.
Ce qui est assez particulier, c'est que il y a beaucoup moins de femmes qui sont placées en garde à vue que des hommes. Sur leurs statistiques à eux et sur les arrestations, c'est principalement des arrestations masculines. Et donc, certains commissariats ne sont déjà pas équipés de cellules pour femmes. Elles sont pas en fait différentes dans leur installation de celles pour les hommes, mais juste souvent, ils vont avoir une cellule d'hommes pour hommes majeurs et une cellule pour mineurs et rien d'autre. Et donc, en fait, quand ils se retrouvent dans des situations comme moi pour ma première garde à vue, avec déjà une femme qui vient et leurs cellules qui sont pleines, moi, j'ai pas été placée dans une cellule. J'ai été menottée sur un banc pendant 6 heures. Il va souvent y avoir au moins une femme garde, si on a des femmes en cellule, qui va être là donc pour les fouilles au corps, souvent pour faire l'inventaire du sac. Moi, la première garde à vue, il y avait une femme et un homme. Et vu qu'on était deux, ça répartissait bien les tâches. Jusqu'au moment où donc on m'emmène dans une salle pour faire cette fouille, qui est une fouille en fait juste pour vérifier qu'on n'a pas caché des choses dans nos habits, etc. Et donc en fait on nous demande d'enlever notre pull, notre t-shirt, notre pantalon, et tu te retrouves très vite en sous-vêtements, quoi. Mais bon, enfin, rien d'anormal jusque-là. On est dans une salle qui est vraiment pas en bon état. La porte ne se fermait pas. Donc, t'es complètement à vue de policiers qui sont dehors et qui ne sont pas des femmes. Et puis même, enfin, femme ou homme, peu importe. Et j'ai la chance de pas être pudique, donc, enfin, entre guillemets, une chance dans le sens où ça m'a pas particulièrement marqué derrière, moi personnellement et psychologiquement. Mais je comprends très bien que ça puisse marquer d'autres personnes, parce qu'en fait, le truc était que j'avais pas un soutien-gorge classique, entre guillemets, qu'on peut juste enlever par derrière et passer dans le t-shirt et donner. J'en avais un qui devait s'enlever par le haut. Et donc, le problème étant que du coup, j'ai dû enlever mon t-shirt. Moi, je me retrouve devant cette policière, un peu là, genre, bon, est-ce que je lui montre mes seins ou est-ce que je me retourne? T'es un peu entre les deux, t'essayes de faire de ton mieux qu'on te repasse ton t-shirt et que tu remettes tout ça bien. Mais la deuxième fois, ça s'est mieux passé. Évidemment, j'avais le même. Vraiment, je le remets plus jamais parce que c'est pas possible. Enfin, la poisse, quoi. Mais la porte se fermait. Et encore, c'était une porte avec un hublot en verre dedans. Moi, j'ai pas de problème particulier à être presque nue devant des inconnus. Mais je sais que pour des gens, ça peut être très compliqué. Et ça peut être très marquant aussi. Surtout quand on n'est pas en accord avec son corps, quand on a des complexes, quand on veut pas le montrer, quand on est juste pudique et que bah, c'est notre corps, quoi. Et on devrait pas avoir à faire ça. Et surtout, mais un soutien-gorge. Le prétexte, c'est qu'on peut s'étrangler ou se tuer avec dans une cellule.
Ça peut être aussi la nana qui est en garde vue et qui a ses règles et qui demande d'aller aux toilettes pour changer son tampon ou sa cup ou sa serviette et on lui refuse. Et ça, c'est très fréquent. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu plein de fois et même pour des très jeunes filles, quand les lycéennes et les lycéens d'Arago, on était en 2018 lors du mouvement contre la loi Auré, ils avaient été tous arrêtés à la suite. Ils avaient fait une AG dans une salle, ils étaient rentrés dans le lycée Arago, enfin, ils n'avaient rien fait d'extraordinaire. Ciné-nager. Ça a beaucoup marqué cette histoire du lycée Arago parce que pour une fois c'était des fils de profs et des fils de journalistes. Résultat, ça avait agité le Landerneau alors qu'on avait déjà vu ça ailleurs dans d'autres quartiers, mais évidemment personne n'avait bougé. Et dans les lycéens et les lycéennes d'Arago, il se trouve que moi j'avais des copines qui étaient mères de lycéens ou lycéennes d'Arago, donc je les ai vues, et les mères et les enfants, et les filles racontaient que ce qui les avait particulièrement marqué, c'est qu'il y en avait une qui avait ses règles, et puis des règles un peu abondantes, et elle se saignait dessus, et les policiers ont refusé absolument qu'elle change son tampax, ou alors elle disait de le faire devant tout le monde, et elle l'avait vécu comme quelque chose d'absolument traumatique, ce que je comprends très bien, et ça, c'est pas toujours évident à raconter, parce que, entre nanas, on peut se raconter ça, et on voit très bien ce que ça veut dire quand on se retrouve avec le sang qui coule sur les jambes, etc. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas du tout envie d'entendre ce genre de truc et qui considèrent que c'est pas si grave que ça, quoi.
C'est vrai que la deuxième fois, la deuxième garde à vue, donc celle en novembre, une des femmes avec qui j'étais en garde à vue avait ses règles. Elle a réussi déjà à avoir un médecin pour avoir un Doliprane. Ce qu'on a toutes fait, en fait. Toute fin de la garde à vue, elle a demandé à la policière, parce qu'il n'y en avait qu'une et elle n'était pas là souvent, et elle lui a demandé est-ce que vous n'auriez pas des serviettes hygiéniques ou quelque chose. Et en fait, elle est revenue avec un pack qui, visiblement, peut être donné à n'importe qui le demande, mais personne n'est au courant, avec serviettes hygiéniques, des mouchoirs, du dentifrice à croquer, okay, même des lingettes et des tout petits trucs, mais c'est pas... Moi, j'en avais jamais entendu parler, je ne savais même pas que c'était possible, et heureusement qu'elle a demandé, en fait. À cette policière-là, sauf que c'était 2 heures avant qu'elle soit relâchée, quelque chose comme ça. Donc, mine de rien, pendant toute la nuit, elle a dû galérer. Et puis même, aller aux toilettes, en garde à vue, ça peut être très compliqué, ça peut être un processus qui est très long. Donc, vaut mieux y aller de façon préventive, même avant de rentrer dans la cellule, ou de demander quand quelqu'un d'autre demande. Mais il y a des personnes, quand on a nos règles, il faut aller aux toilettes une fois par heure. Et ça, c'est pas possible. Enfin, souvent, on nous entend pas quand on demande à sortir. On nous dit non, ou on nous dit qu'on y est déjà allé trop souvent, qu'on n'a pas besoin d'y retourner. Et tout le processus d'organisation d'une garde à vue, la majorité des policiers présents sont des hommes. Et donc la compréhension de ce que nous on vit à ce moment-là est très compliquée. Et surtout, je sais pas si c'est refusé, mais c'est juste inconnu. Comme si c'était pas vraiment un problème.
De même qu'il y a pas mal de nanas qui disent qu'on leur frappe les seins. Mais les nanas ont l'impression qu'on a visé leurs seins, parce que se prendre un coup sur les seins, ça fait mal, quoi.
Et il y a aussi cette chose que j'ai remarquée plusieurs fois, qui m'est arrivée en tant que manifestante, mais que je vois encore aujourd'hui une pratique, qui est de repousser les femmes quand c'est du corps à corps par les seins. Comment dire ? On n'est pas des hommes, donc on ne peut pas faire ça. C'est pas possible.
Et il y a aussi de très nombreuses fois où on voit les policiers qui saisissent les femmes par les cheveux. Alors on dit « Ah, mais c'est parce que les femmes ont les cheveux longs ». Non, moi j'ai vu plein de militants hommes arrêtés avec des cheveux qui sont de cette taille-là. Eux, on ne les saisit pas par les cheveux. Une nana, on va la saisir par les cheveux. Enfin, c'est aussi l'image des hommes des cavernes qui traînaient leurs femmes par les cheveux qu'on retrouve dans les dessins. C'est une humiliation. C'est la femme réduite au truc qu'on tire, quoi. Ils veulent les faire pleurer et quand elles pleurent, ils sont contents parce que quand elles pleurent, c'est l'ordre des sexes. La femme pleure.
On pourrait se demander si les femmes policières sont elles aussi tenues de respecter l'ordre des sexes. Existe-t-il une sororité entre les manifestantes et les policières ou bien ces dernières s'efforcent-elles de faire comme les hommes ? D'une certaine façon, ces policières ne sont-elles pas aussi victimes de l'ordre des sexes ? J'ai demandé à Anna Nelson ce qu'elle avait ressenti vis-à-vis de ces femmes policières lors de ces arrestations.
beaucoup d'instinct grégaire de je vais faire comme les mecs, dans la majorité des cas. Souvent les plus agressives de la brigade qui s'occupe de quoi que ce soit. J'ai eu affaire à quelques policières, souvent très jeunes dans le métier, qui venaient d'arriver. Moi, il y en a une, enfin, le soir où je me suis fait arrêter en novembre, qui m'a laissé envoyer un message à quelqu'un parce qu'il y avait tout un bordel de clés, de maisons, d'habitat, enfin bref, et qui m'a laissé en fait juste prévenir deux personnes en envoyant deux messages, genre il se passe ça, ça, ça. Mais sinon, beaucoup, j'ai eu affaire à beaucoup de femmes policières qui, en fait, pour rentrer dans la masse masculine, rentraient dans leur comportement. Et qui avaient bien compris que pour se faire respecter, il fallait, comme quand on est en garde à vue, montrer qu'on avait de la personnalité, qu'on était ferme et qu'on n'était pas une petite bête tout douce. Mais ça, ça a pour conséquence que sur le terrain, c'est pareil. Et il n'y a pas de, sororité. Et ça fait, en fait, ça fait mal, entre guillemets. Et c'est des histoires qu'on avait vues aussi avec des policiers noirs pendant des manifestations antiracistes qui se faisaient traiter de traîtres, etc. Ça fait mal, en fait, de voir une femme policière frapper une autre femme manifestante et qu'elle considère que ce qu'elle fait, c'est vraiment juste. Et c'est... dans ces moments-là, on se dit, mais en fait, on vit la même oppression. Juste, t'as essayé d'entrer dans le moule pour sauver ta peau dans cette profession. Parce que sinon, bah, tu te fais manger. Et nous, on est juste là en train de montrer que... Enfin, on essaye aussi, on pousse à notre manière et on se... Mais ça fait mal, en fait, à voir. C'est décevant.
La jeune fille à Arago, elle me disait qu'il y avait aussi une policière qui ne lui avait pas permis de changer son tampax. À mon avis, elle en est victime aussi, c'est-à-dire que si elle le pervertit après dans le cadre, alors je sais plus comment, si c'est une brigade, etc., mais elle peut aussi se retrouver après moquée par ses camarades ou mis à l'écart ou traitée de t'es trop sensible, le fameux t'es trop sensible, parce que c'est connu, on est beaucoup trop sensible, c'est notre utérus qui nous rend super sensible, c'est vraiment un machin de ouf. Et elle, si elle a vécu ça 3-4 fois, ces situations de mise à l'écart et qu'elle a pas envie parce qu'elle a envie d'être intégrée dans le groupe, hein, eh ben elle va se mouler dans le fonctionnement sexiste de la brigade à laquelle elle appartient.
D'un côté ou de l'autre, l'ordre des sexes est tel qu'il empêche la sororité d'opérer. Mais alors, quelles sont les ressources qui restent aux manifestantes pour se défendre? Au cours de ce premier épisode, j'ai compris que les femmes qui subissaient ce genre de violence se retrouvaient souvent isolées et n'avaient personne vers qui se tourner. À cause du traumatisme qu'elles ont vécu, ou parce qu'elles savent très bien qu'elles ne seront pas crues, la parole des manifestantes est difficile à libérer sur cette question.
Alors la question, c'est qu'est-ce qui fait l'omerta? Est-ce que c'est ce que les femmes n'en parlent pas? Non, elles en parlent. Elles en parlent, il suffit de les écouter, mais elles en parlent. En revanche, bon, c'est la difficulté, c'est d'abord elles vont se plaindre à qui, parce que si elles ont eu subi des violences sexuelles et sexistes de la part de la police, elles vont pas aller se plaindre à la police, elles sont quand même bien emmerdées en la matière. Surtout que la relation de confiance étant complètement entamée, je vois pas une nana qui a subi des violences aller se plaindre au comico.
Non, c'est clair, et puis en plus on sait très bien comment se passe une plainte... pour viol dans la majorité des cas, bon, c'est pas, absolument pas tous les cas, mais c'est tu portais quoi, tu faisais quoi ce soir-là, machin. Mais c'est vrai que pour ces arrestations, ces fouilles qui sont vraiment, vraiment humiliantes, et même, enfin, j'ai été victime d'attouchements sexuels de la part de la police, et c'est vrai que sur ce moment-là, de tenir tête au policier qui le fait, c'est prendre un très grand risque, et j'en ai fait les frais, et je ne regrette pas d'avoir dit quelque chose. Mais en fait, tout de suite, on parle beaucoup de cette institution comme elle est très solidaire on va couvrir pour notre pote à chaque fois. Donc en fait, quand tu vas te plaindre de l'acte d'un policier, t'en as 40 qui vont être derrière lui. Et donc, c'est très compliqué de se lever et d'affirmer ce qu'on dit, d'affirmer ce qu'on a vécu.
Ils veulent faire comprendre que ils ont le pouvoir et de toute façon, ils sont jamais punis. Enfin, je veux dire, sur 200 plaintes de l'IGPN, il n'y a eu que deux qui ont vraiment abouti, et à peine. Donc déjà, ils ont un sentiment d'impunité, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Deuxio, en fait, les femmes, le problème, c'est qu'on les croit jamais. Déjà que les problèmes, enfin, en général, les plaintes pour viol ou agression sexuelle, elles aboutissent jamais. Les violences conjugales, elles aboutissent jamais, ils s'en foutent. Alors du coup, ils se disent, de toute façon, avec les manifestantes, c'est encore mieux, parce que du coup, personne ne va les croire. On va juste nous dire, vous faites exprès pour... Pour avoir des compensations, je sais pas quoi, ou encore une autre connerie. On est des proies faciles, en fait, au final. Encore plus que... Je dirais encore plus que les mecs, on est des proies faciles, quoi.
Le comportement des forces de l'ordre est un observatoire, et une espèce d'observatoire qui condense, et ça précipite au sens chimique, hein, tout ce qu'il peut y avoir de sexisme dans la société. Mais d'ailleurs, si on regarde ce qui se passe dans les commissariats, le sexisme s'exprime aussi, pas seulement dans les arrestations et dans les gardes à vue, mais dans la façon dont sont mal reçues, mal accueillies, mal entendues les femmes qui viennent pour porter plainte pour des violences. Une femme qui va au commissariat pour porter plainte pour une violence, quelle qu'elle soit, se fait... très souvent, pas toujours, heureusement, parce que de fait, il y a quand même eu un certain nombre de signaux d'alarme en la matière, mais se fait très mal recevoir par les forces de l'ordre qui sont pourtant là, normalement, censées la traiter en victime et la traiter à égalité avec les autres victimes. Mais tous les récits qu'on peut lire des femmes qui viennent porter plainte pour des viols, plus encore, ou pour des violences conjugales, ou pour des harcèlements, elles ne se font pas recevoir avec le respect qui leur est dû. D'abord, de façon générale, en tant que citoyen, et par ailleurs, en tant que victime.
C'est dans ces cas-là que les images, elles sont essentielles pour ces personnes-là, qui veulent élever leur voix, mais ont peur des conséquences. Avec une image, il y a une arme en plus. Et c'est pas juste une voix contre une autre, ou une voix contre 40 autres, c'est une voix et une image et une preuve tangible de ce qui s'est passé. Et c'est... c'est juste absolument essentiel, et surtout de montrer ce que vivent les femmes dans des manifestations, ce qui est complètement différent de ce que vivent les hommes. La violence, elle n'est pas pareille. Et la violence, même si c'est le même outil qui est utilisé, la même arme qui est utilisée, elle nous attaque différemment de par ce qu'on vit.
J'espère que ce premier épisode de Police Sexiste vous a plu. Moi, en tout cas, il m'a donné envie de poursuivre cette enquête. Dans les prochains épisodes, nous parlerons de la violence dans les commissariats et de la peur de porter plainte. Nous nous interrogerons aussi plus longuement sur la place des femmes dans cette profession. Merci à Perrine, Julie et Florian qui m'ont aidé à réaliser cet épisode.